Mémoire d'un vieux paysan du Bas-Armagnac. Lorsque j'ai commencé à travailler, il y a plus de 70 ans, la vigne occupait environ le tiers de la surface agricole utile, mais constituait le revenu essentiel de la propriété. Tout le reste gravitait autour. Il y avait des champs qui fournissaient le blé pour faire l'échange avec le boulanger et le maïs pour nourrir la nombreuse volaille. Il y avait des prairies pour nourrir le bétail qui assurait la traction. Pour avoir un attelage robuste, il fallait compter 3 à 4 ans. C'est dire le troupeau important que cela nécessitait. Ce troupeau constituait une source de revenus. Les vieux attelages se vendaient bien et étaient remplacés par des jeunes, nés et dressés sur l'exploitation. Changer d'attelage signifiait une rentrée d'argent. Selon sa conformation, un veau était vendu à l'âge de 3 mois ou gardé afin d'être dressé plus tard pour le travail. On l'espérait, comme on disait alors. En plus de la traction, ce troupeau assurait la fumure. Les landes fournissaient la litière et le fumier ne manquait pas. Les terres étaient fumées régulièrement tous les 2 à 3 ans. En dehors du sulfate de cuivre, de la chaux et du soufre pour les traitements, on achetait très peu de choses. Un peu de potasse pour la vigne, d'acide phosphorique et d'azote pour le blé et le maïs. Il en était de même pour le ménage. Le supermarché et ses caddies n'existaient pas. Il y avait certes des épiceries et des boucheries, mais on y allait rarement et les achats qu'on y faisait étaient largement compensés par la vente des œufs et de la volaille. Donc, on vivait presque en circuit fermé. Était-on plus heureux que de nos jours? Grande question. Évoquer le passé, c'est aussi revoir sa jeunesse. Et cela ne se fait pas sans une certaine nostalgie. Il y avait certes des moments agréables, les dépiquages où on se retrouvait entre voisins autour d'une batteuse, l'arrivée d'un matériel de battage dans une ferme. Mais c'était un spectacle. C'était un peu le cirque. Ils avaient du mérite, ces hommes qu'on appelait los Batus Aires. En l'espace de quelques dizaines de minutes, ils alignaient et mettaient de niveau presse, batteur et tracteur. Cela plusieurs fois par jour et sous un soleil de plomb. Ce n'était pas dans le calme et le silence, et quelquefois les marteaux volaient en l'air, mais en fait, ils le faisaient. Dans un nuage de poussière, ce matériel se mettait en mouvement. Chacun avait sa place de prédilection. En principe, les jeunes portaient les sacs ou les bottes de paille, les vieux faisaient passer les gerbes. Il y avait le coupeur de ficelles, un homme soigneux qui empaquetait ses cordes appelées à resservir pour la vigne. Il y avait, il faut bien le dire, quelques bricoleurs, espèces de mouches du coche qui étaient partout et nulle part, faisant courir le piquet des vignes, le pot de vin. La chaleur et la poussière étaient de même pour tous. Mais il y avait la bonne table, la poule au pot avec son farci, le poulet rôti, et tout cela arrosé avec largesse. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de régime à cette époque-là. Il y avait les vendanges, les lointaines vendanges de mon adolescence, qui voyaient arriver dans notre village nos voisins et voisines, basques ou landais, avec leurs chansons et leur folklore. Il y avait les dépouillades. Les vendanges terminées, il fallait au plus vite dégager les champs de maïs qui allaient recevoir le blé. Alors, on cueillait les épis avec les dépouilles et on les entassait dans le chai. Puis, On invitait les voisins et c'était la soirée de la dépouillade qui durait jusqu'à 11 heures. Suivait le réveillon, dont le menu était immuable. Châtaigne, morue salée cuite à la poêle avec de l'ail et du persil, et pour accompagner tout cela, le bourret, le vin nouveau. Une bonne partie du vin était destinée à la fabrication de l'armagnac, et chaque hiver voyait revenir l'alambic et ses deux distillateurs qui faisaient 12 heures chacun. On se remplaçait la nuit pour leur tenir compagnie, et j'ai le souvenir de ces longues veillées autour du feu. Pour ne pas s'endormir, on allait de temps à autre humer et goûter la merveilleuse eau-de-vie blanche qui embaumait le chai. Enfin, il y avait dans l'année plusieurs occasions de se rencontrer entre voisins, et c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. En réalité, le travail était dur, beaucoup plus dur que de nos jours, et je vais l'évoquer. La taille de la vigne n'a pas tellement évolué. Les sécateurs électriques ont remplacé les sécateurs ordinaires, mais cela reste, comme autrefois, un travail long et fastidieux. Par contre, pour les autres travaux, quelle différence! Au printemps, premier labour et décavaillonnage. Dans les vignes à 2,20 m, il fallait passer 8 fois par sillon. Un mois après, on retournait cette terre vers le rang en passant encore 8 fois. Et tout cela, au milieu d'une herbe traînante, la fameuse pélingue, qui bloquait souvent la charrue. Je me souviens encore des hurlements que poussaient les bouviers de l'époque. Chacun avait son répertoire, et le bon Dieu, la Sainte Vierge et tous les saints étaient pris à partie à tour de rôle. Entre-temps, il pleuvait, et il fallait partir sulfater, souvent à dos. La sulfateuse, tirée par le cheval, s'engloutissait dans cette terre fraîchement travaillée, et les roues qui entraînaient la pompe ne tournaient pas. Donc, sulfatage à dos, et souvent bien nu. Immanquablement, cela coïncidait avec la coupe du foin. Lorsqu'il faisait beau, il y avait un choix à faire. Soit négliger le foin qui, s'il était de mauvaise qualité, nourrissait mal les attelages, soit négliger la vigne. Souvent, avec beaucoup de difficultés, on se débrouillait pour mener tout de pair. Pour nous, les SMP, le foin était aux prairies de la Douze. Mais il fallait y aller. Au pas des bœufs, nous mettions presque 1 heure et demie. Alors, nous partions pour la journée. Et dans une cage préalablement garnie de foin, nous mettions la soupière de Touraine, le poulet rôti, la bonbonne de vin, le pot de café et bien sûr l'armagnac. Je me souviens d'une anecdote. Un jour, alors que nous étions prêts à partir, arrive une voiture de vacanciers parisiens qui se rendait sur la côte. Et mon père de leur dire gravement, « Vous allez à Biarritz, eh bien nous, nous allons à la plage de Soumajou. » Intrigués, ils se demandaient où pouvait bien être cette plage où on se rendait en pareil équipage. Il ne risquait pas de la trouver sur la carte Michelin. C'est un quartier de la Douze situé au bas de Bourouillan. C'est vrai que c'était un peu les vacances. Nous étions plusieurs à pique-niquer là-bas et nous prenions le café ensemble, le café qui avait chauffé au soleil à côté du foin. Et au fond de la charrette, il y avait le filet à poisson, le fameux sarouette. Lorsqu'il faisait beau, en l'espace d'une heure, nous prenions 12 douzaine de chevennes et quelques douzaines de goujons. Tout le monde faisait pareil, et le poisson pullulait. Cela a bien changé. Par contre, les jours d'orage, que d'hésitation, Que d'angoisse fallait-il faucher, étendre, et que de tristes retours avec du fouet trempé. Le rêve, c'était le tracteur. Et surtout, le tracteur vigneron qui aurait considérablement simplifié le travail. Mais il fallait un tracteur assez étroit pour passer entre les rangs et capable de tirer l'interlit en un seul passage. Il existait, c'était le chenillard, mais très cher à l'achat et de toute façon inutilisable sur nos propriétés morcelées. Puis, il y eut la première démonstration de labour de vigne à Nogaro vers 1950. Rassemblement hétéroclite du matériel de l'époque. Chenillards, maniables et puissants, tracteurs à roues patinant lamentablement vers leur charrue traînée. Et on vit arriver un petit tracteur gris, ultra léger, équipé d'une charrue qui faisait la largeur de l'interligne. Incrédulité, sarcasme, mais surprise, le petit tracteur tirait sans difficulté, sans patinage, et le démonstrateur, très fier, laboura à toute vitesse les sillons de vigne qui lui étaient réservés. C'était le miracle de l'outil porté, avec contrôle hydraulique. Tout cela, inventé par un ingénieur anglais, Harry Ferguson, qui devint l'homme le plus admiré en Gascogne. Beaucoup achetèrent leur premier tracteur dans ces années-là, et ce fut le début d'une autre époque, que j'évoque avec émotion. Équipé d'un moteur à essence, robuste et silencieux, de phares puissants qui permettaient de travailler tard dans la nuit, y bouleversèrent le travail. Le labour de la vigne, la fenaison, ne posèrent plus de problème. Et très vite, nous nous aperçûmes que même avec un monostock réversible, on labourait rapidement les champs. Pour labourer un hectare de terre, en enfouissant les jambes de maïs avec un petit brabant, il fallait presque une semaine. Un tracteur équipé d'un monosoc réversible à grand dégagement faisait le même travail en une petite journée. Avec la venue des premiers hybrides américains, c'était la période bénie pour le maïs. Je me souviens de ces numéros prestigieux, les Wisconsin 255, 355. Plus tard, il y eut le fameux Iowa 4417. Certains, qui n'avaient pas la mémoire des chiffres, se contentaient de dire en commandant les semences que bon, il y a eu un grand rendement. Je veux le grand rendement. Et le maïs se vendait très bien. Le marchand venait sur le rang, cassait quelques grains avec les dents et proposait un prix forfaitaire qui souvent voisinait 25 francs le kilo en épi. Mais à cette époque-là, le litre de vin ne valait guère que 22 francs. Donc, formidable attrait pour le maïs et pour le blé d'ailleurs. Jusqu'alors, le blé le plus répandu était le bon fermier. J'hésite à le critiquer, il a fourni le pain à des générations d'ancêtres. Mais enfin, il faut reconnaître qu'il n'avait de bon que le nom. Il formait les épis à toutes les hauteurs, versait à la moindre brise, et dans le meilleur des cas, rendait de 7 à 8 pour un. Je vais vous raconter une histoire. Il m'arrivait souvent, à cette époque-là, de demander des conseils à un vieux directeur de la coopérative céréalière des Roses. C'était un ours, mais il connaissait bien son métier, et comme l'agriculture me passionnait, il avait de la sympathie pour moi. Un jour, il me dit, « Achète ces 100 kilos de semences de blé, je crois qu'il a un grand avenir. » Je l'écoutais, et à l'épiaison, j'eus la surprise de voir un blé épais, régulier, comme je n'en avais jamais vu. Au dépiquage, il rendit 27 pour un. Très fier, je promis de la semence à tout le monde, et il m'en resta très peu pour l'année suivante. C'était le début de la variété étoile de Choisy. Donc, formidable évolution des céréales. Conséquence, d'abord recherche de terre. C'était avantageux à cette époque-là d'emprunter pour acheter de la terre. L'inflation qui allait suivre, la forte demande de céréales rendraient les échéances faciles. Mais fallait-il le savoir? Et surtout, mise en culture au détriment du troupeau de bétail, de toutes les parcelles disponibles. Oh, cela ne s'est pas fait en un an, ni en deux, ni en trois. Et il y en a eu des discussions. C'était un conflit de générations. En découvrant les immenses possibilités des tracteurs, les jeunes voyaient bien qu'on ne reviendrait jamais aux attelages. Les vieux étaient moins affirmatifs. C'était l'époque de la guerre froide, le blocus de Berlin, la guerre de Corée. Un conflit mondial pouvait ressurgir avec comme conséquence pénurie de carburant. Il y avait le fumier qui paraissait indispensable. Et ils avaient peut-être raison. Il y avait surtout tout un passé à remettre en cause. Alors, cela s'est fait petit à petit, insidieusement. Progressivement, les prairies et les landes étaient mises en culture et progressivement, le troupeau diminuait, jusqu'à disparition complète. Je pense que cela était inévitable. D'un côté, il y avait un marché des céréales en pleine expansion, avec des prix rémunérateurs. De l'autre, un troupeau qui, ne servant plus pour la traction, n'avait comme intérêt que la viande. Ce marché de la viande était difficile, désorganisé. Il est vrai que cette race gasconne, excellente pour le travail, n'était pas très compétitive. Les veaux n'étaient pas des mastodontes et tirer du lait relevait de l'héroïsme, tant les coups de pied et les coups de queue volaient bas. Donc, dans la majorité des cas, suppression du troupeau au profit des céréales, blé, oléagineux et surtout maïs. La plupart de nos fermes gasconnes ont certes gardé la vigne comme production de base, avec chaque année distillation d'une bonne partie de la récolte en Armagnac, qui, gardé 5 ans, trouvait facilement preneur. Il fallait arriver à faire le roulement. Le maïs, venant très bien dans nos terres, constituait un appoint précieux. Avant d'arriver à l'époque actuelle, portons un jugement sur ces années qui ont suivi la guerre. D'une agriculture d'autoconsommation, nous sommes passés à une agriculture de marché, terriblement dépendante des produits industriels. Il faut acheter la traction, la fumure, les produits de traitement, ajouter notre travail, puis vendre. Comment cela s'est-il passé? D'abord bien, il faut le reconnaître. Cette période qu'on a appelée les 30 glorieuses pour l'industrie et le commerce a eu des répercussions favorables sur l'agriculture. La motorisation, les nouvelles techniques ont décuplé nos productions, ont facilité notre travail, ont ouvert des horizons nouveaux. Avec des attelages qui se déplaçaient à 3 km à l'heure sur les routes, on ne pouvait s'agrandir qu'à proximité. Un tracteur se déplaçant à 20 km à l'heure ouvre d'autres perspectives. Donc, agrandissement, modernisation des exploitations, élévation du niveau de vie. Les choses ont changé davantage en 30 ans que pendant des siècles. Puis, cette modernisation a engendré de nouveaux inconvénients. Surproduction, mévente, et la situation s'est dégradée inexorablement. Les méthodes de production actuelles sont de plus en plus critiquées. Et certains veulent se reconvertir à l'agriculture biologique. Est-ce l'avenir? Le vieil homme de 86 ans que je suis devenu vous donne son avis. Certes, je reconnais qu'on a abusé d'engrais, de désherbants et surtout de pesticides, mais vouloir tout supprimer est utopique. Sans apport d'azote au blé, vous reviendrez à des rendements de 10 quintaux hectares. Et au maïs, vous n'aurez rien. L'action de l'acide phosphorique et de la potasse est moins spectaculaire. Mais un léger apport annuel entretient la fertilité du sol. C'est ce que l'on faisait autrefois, à la main, ce qui limitait les quantités employées. Écoutez. En ce début de siècle, l'agriculture biologique a de plus en plus d'adeptes. Et comme j'ai passé ma vie à faire pousser des plantes et à en vivre avec ma famille, je vais tout simplement évoquer mes souvenirs. Dans ma vie d'agriculteur, je me suis heurté à trois inconvénients. Les champignons, les insectes, l'herbe. Donc, les champignons, et essentiellement pour la vigne, le mildiou, le blagrot, l'oïdium. Mon père m'a dit souvent qu'au début du siècle dernier, ces maladies ne posaient pas de problème. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les sérieuses invasions ont débuté pendant la Grande Guerre. Il me racontait cette anecdote. Un de ses amis, agriculteur à Bourouillan, grièvement blessé à la bataille de la Marne, était rentré chez lui et malgré son handicap, courageusement, il traitait sa vigne tout au long de l'été. Il était le seul de la commune à récolter convenablement. La lutte contre le mildiou a toujours été une obsession. Le seul produit employé était la bouillie bordelaise. On faisait fondre 6 kilos de chaux vive dans un cuvier et 12 kilos de sulfate de cuivre dans un autre. Puis, on vidait cela dans une barrique de 16 hectolitres, à moitié remplie d'eau, pour éviter le traitement à la fleur de soufre, toujours désagréable. On ajoutait du soufre mouillable, dont le poids variait suivant la marque. Et on complétait avec de l'eau. Cette barrique, montée sur des roues, était attelée à des bœufs, et c'était le départ pour la vigne. À partir du moment où ce mélange était fait, il fallait remuer souvent pour éviter le dépôt. À tour de rôle, les hommes s'asseyaient à califourchon sur une espèce de banc surélevé à l'extrémité pour supporter l'appareil. Intervenait alors le serveur, généralement une femme, un homme âgé, un enfant. Je n'aimais pas ce travail que l'on me confiait quelquefois au retour de l'école. Les hommes fatigués par une longue journée protestaient lorsqu'une goutte de sulfate leur tombait dans le cou. Et entre le remplissage de deux appareils, il fallait sans arrêt tourneiger, comme on disait alors. La tournée était un long manche légèrement courbé, avec en haut une articulation terminée par une chaîne qui raclait le fond de la barrique. Devenu plus robuste, je préférais de loin porter l'appareil, et pompant d'une main, tenant la lance de l'autre, dessiner à longueur de sillon d'imaginaires arabesques. La bouillie bordelaise avait au moins le mérite de colorer le feuillage, et j'ai le souvenir de ces parcelles de vignes fraîchement traitées, dont le bleu horizon tranchait sur la verdure d'alentour. Le grand inconvénient était le lessivage, et si par malheur une pluie arrivait avant que la chaux ait terminé son rôle de fixateur, il fallait recommencer. Les remplaçants de la bouillie bordelaise arrivèrent dans les années 50. D'un emploi plus facile, ils étaient adaptés aux appareils modernes, mais ils avaient les mêmes inconvénients en cas de forte pluie. Puis, on vit arriver les pénétrants, les systémiques qui assurent une couverture d'une quinzaine de jours. Faut-il regretter la bouillie bordelaise, voire y revenir? Je me garderai bien de donner un conseil, mais je peux dire qu'autrefois, alors que les vignes recevaient régulièrement du fumier, il était difficile de faire pousser quelque chose sur les parcelles arrachées. Il y a 50 ans que les vignes actuelles ne sont plus fumées organiquement, et lorsque vous les arrachez, vous constatez que le maïs y pousse normalement. Je n'en ai pas la preuve, mais j'ai toujours supposé que l'accumulation de cuivre dans le sol était responsable de cette stérilité. Je n'ai jamais été arboriculteur, mais j'ai la nostalgie des arbres fruitiers du temps de ma jeunesse, qui, sans traitement, conservaient leurs fruits jusqu'à maturité. Ils ont vieilli avec moi. Certains ont disparu et ont été remplacés par de nouvelles variétés. Tous ont la même particularité. Leurs fruits tombent en juillet-août, et si vous les portez au grenier, ils pourrissent lamentablement. J'en arrive aux céréales, en particulier le blé. Je constate que les nouvelles variétés sensibles à la rouille exigent au moins deux traitements, car la qualité du grain dépend de la verdeur du feuillage. Et j'en arrive à cette conclusion. Peut-on, sous prétexte d'écologie, supprimer les traitements anticryptogramiques? Hélas, je ne le crois pas. Et nous arrivons au deuxième inconvénient que j'ai rencontré dans ma vie active, les insectes. Jusqu'en 1950, en général, personne ne s'en souciait. Il y avait certes sur la vigne les vers de la grappe, Eudémis et Cochilis. Quelquefois, ils étaient responsables d'attaques de botrytis, mais on faisait avec. Le grand bouleversement est arrivé entre 1950 et 1960 avec l'apparition, essentiellement sur le Baco 22A, d'une maladie inconnue. Vers le mois de juin-juillet, certaines souches ne poussaient plus. Le feuillage se flétrissait en prenant une couleur jaune. Les raisins à peine formés tombaient et les sarments restaient verts. La récolte était perdue, mais les cèpes ne mouraient pas et repoussaient, très affaiblis, au printemps suivant. D'abord localisée, la maladie s'étendit rapidement à l'ensemble de la région. Consternation. Que fallait-il faire? Les services des végétaux alertés décrétèrent que c'était un virus qu'ils appelèrent flavescence dorée. Puis, certains remarquèrent que de minuscules insectes voletaient, particulièrement autour de ces souches contaminées. Et le verdict tomba. Cette cicadelle n'est pas à l'origine du mal, mais elle en est le vecteur. C'est-à-dire qu'en piquant les souches malades, puis les saines, elle propage le virus. En s'inspirant sans doute des médecins de Molière, les ingénieurs de l'époque lui donnèrent un nom latin que je n'ai pas cherché à retenir. Enfin, l'ordre tomba impérieux. Sus à la cicadelle. Beaucoup haussèrent les épaules et se contentèrent de dire que eu couillonnade. Avec mon père, nous décidâmes d'engager la lutte. Et me voilà parti pour la première fois de ma vie avec une sulfateuse contenant de l'insecticide, sans protection et sans inconvénient apparent. Mais je dois le dire avec en moi-même une profonde amertume. Cela ne me plaisait pas. Le résultat, comme toujours dans la nature, l'on a observé. Mais, coïncidence ou pas, il semblait que la maladie ne se propageait plus. L'année suivante, l'amélioration était visible et des voisins qui n'avaient pas traité se rendirent à l'évidence et vinrent même nous aider à vendanger. Et c'est ainsi que les premiers traitements insecticides se généralisèrent. Hélas, ce n'était que le début de nos malheurs. Quelque temps plus tard, me promenant dans les vignes au mois d'août, je remarquai une parcelle qui prenait une couleur rouge brique. Les voisins alertés remarquèrent chez eux le même phénomène. Les agents des services végétaux arrivèrent avec des loupes et découvrirent de minuscules points rouges, invisibles à l'œil nu, qui pullulaient au revers des feuilles. Du moins, leur donnèrent-ils un nom que tout le monde pouvait retenir. C'étaient des araignées, certaines rouges, d'autres jaunes, jamais ensemble d'ailleurs. Et l'ordre tomba, sus à l'araignée. Le produit employé était plus virulent, et à la suite de migraines mémorables, j'achetai mon premier masque de protection. Et ce fut le début de la lutte infernale contre la cicadelle et l'araignée, avec en toile de fond le vieux ver de la grappe qui subitement devenait indésirable. Si la flavescence dorée était en régression, les dégâts causés par l'araignée s'amplifiaient. J'avais la hantise, jour et nuit, de ce feuillage plombé, prémisse de l'attaque. Vidées de leur substance, les feuilles ne nourrissaient plus les raisins qui ne mûrissaient pas. Il ne fallait pas attendre ce stade et prévoir. J'appréhendais la visite du technicien, souvent envoyé par le marchand de produits d'ailleurs. Le scénario était immuable. Il commençait par secouer le rang et voyant quelques cicadelles s'envoler, hochait gravement la tête. Puis, muni d'une grosse loupe, fouillant le feuillage, il finissait par trouver le long des nervures les petits points rouges maléfiques. Et le verdict tombait. À votre place, je traiterai. Je situe la période critique entre 1960 et 1970. Ensuite, les attaques devinrent moins virulentes. Avec la nouvelle génération d'insecticides, je vois que l'on traite beaucoup moins et il n'y a plus de catastrophes comme autrefois. Je frémis tout de même quand je vois le prix de ces produits. Mais quand on sait que la survie d'une exploitation dépend de la réussite d'une récolte, il faut oser arrêter ces traitements onéreux. Il y avait un certain équilibre dans la nature, et quand une espèce proliférait, des prédateurs apparaissaient, et lentement, tout rentrait dans l'ordre. Reviendrons-nous à cette époque-là ? Sincèrement, je le souhaite. Et nous arrivons au troisième inconvénient, l'herbe. Dans la vigne, il est facile de la contrôler mécaniquement avec les moyens actuels, le nettoyage du pied restant un travail très délicat. J'ai tout connu. Au temps de ma jeunesse, la décavaillonneuse tirée par un vieil attelage qui s'arrêtait au moindre accrochage. Puis, certains finissaient à la pioche. Ma femme raconte souvent qu'adolescente, on lui réservait ce travail, et comme il valait mieux ne pas laisser durcir la terre, elle commençait à l'aube et finissait au crépuscule. Puis, on attela la décavaillonneuse au tracteur. Pour limiter les dégâts, on inventa des crochets, les javersa, qui se déclenchaient automatiquement. Lorsque la terre était dure et qu'il fallait serrer les ressorts, bonjour les dégâts. Enfin, arrivèrent les décavaillonneuses automatiques avec des tâteurs qui faisaient effacer les socs. Rien n'est parfait et ce travail demande beaucoup de temps et de patience. Les jeunes de maintenant y reviendront-ils? C'est si facile de passer à 10 km à l'heure avec un petit jet protégé par un capuchon. Venons-en au blé. Les désherbants sélectifs n'existaient pas et les rampes à céréales non plus. Alors, on laissait bien sécher les gerbes de la lieuse avant de les stocker sous le hangar. Et le grand batteur à poste fixe, bien réglé, sortait du blé propre. C'est la moissonneuse-batteuse qui a nécessité les premiers désherbages. Et nous en venons au maïs. Il demandait tellement de travail que l'on se contentait de semer les quantités nécessaires pour nourrir la volaille. Il est vrai, très nombreuses à l'époque. Il existait un semoir à deux rangs, le latisner, avec une séparation dans chaque casier. D'un côté, on mettait les haricots avec comme distributeur un rouleau en bois percé d'alvéoles, de l'autre le maïs avec un rouleau percé de trous ronds. En principe, il devait tomber 4 graines de maïs et un haricot tous les mètres. La précision du semis était déplorable et nécessitait souvent un éclaircissage manuel. D'autres fois, il fallait refournir. Puis, on travaillait le milieu à la houe et on piochait le rang. Avec l'arrivée du tracteur, la suppression du troupeau et la mise en culture des landes et des prairies, les surfaces en céréales augmentèrent. Dans les années 50, le maïs très recherché attirait toutes les convoitises. J'ai vu le premier grand champ de maïs de ma vie chez M. Danton à Solferino, dans le département des Landes. Des noms faciles à retenir. À la suite des terribles incendies de 1947, des sylviculteurs découragés vendaient leurs terres à 10 000 anciens francs l'hectare et nous étions plusieurs à nous être déplacés pour voir cette expérience, plutôt décevante. L'herbe envahissait les rangs et les épis étaient rachitiques. Bien que le chef de culture nous expliquât qu'il mettait assez d'engrais pour nourrir le maïs et l'herbe, nous restâmes assez sceptiques. Et puis arriva la cimazine, miraculeuse poudre blanche qui, délayée dans l'eau et pulvérisée sur le sol, empêchait les mauvaises herbes de germer sans nuire au maïs. Vu son prix de départ exorbitant, on commença par désherber une vingtaine de centimètres sur le rang, le reste étant nettoyé à la bineuse. Cela coïncidait avec l'arrivée du fameux semoir Benac, célèbre pour sa régularité de semis. L'idéal étant de désherber en semant. Puis arriva la trazine qui détruisait les mauvaises herbes après germination. Peut-on supprimer les désherbants dans les maïs? Ce qui était possible dans la France rurale de mon enfance va être bien difficile à réaliser. Malgré la terrible hécatombe de la Grande Guerre, il y avait du monde dans les campagnes. Et lorsque le travail pressait, femmes, enfants, vieillards partaient sans rechigner. Il est vrai que les étendues étaient restreintes. Je doute qu'il y ait beaucoup de volontaires pour repartir avec des pioches sur les étendues actuelles. J'ai fait le tour de mes trois adversaires, les champignons, les insectes, l'herbe. Tout au long de ma vie, j'ai lutté, avec beaucoup de bonne volonté. J'ai certes profité des nouvelles techniques. À l'heure où elles sont tant critiquées, je rends hommage à nos chercheurs et je leur fais confiance. Imaginez qu'en modifiant la génétique, ils trouveraient des variétés de maïs beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Encore, faudrait-il respecter leurs essais? Ceux qui veulent revenir à l'agriculture de grand-papa ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut être réaliste. Certes, parfois, la nostalgie m'envahit. À l'aube de mes 87 ans, je me retourne et regarde le chemin parcouru. Lors de mes longues promenades quotidiennes en compagnie de ma femme et de mon vieux chien César, je regarde ce paysage qui a tant changé. Ici, il y avait une haie. Plus loin, un chemin creux. Je repense aux landes hantées du Catalan que l'on n'aimait pas traverser le soir à bicyclette. Aux prairies de la Douze, entourées de chênes séculaires sous lesquelles on faisait la sieste dans la bonne odeur du foin. Certains moments de ma vie me reviennent en mémoire. D'abord, cet après-midi du 2 septembre 1939, j'aidais mon père à rentrer la dernière coupe de fourrage lorsque sonna le tocsin annonçant la mobilisation générale. Gravement, les yeux embués de larmes, il me dit « Tu ne repartiras pas au lycée. À partir d'aujourd'hui, tu es un homme. » J'allais faire 15 ans et malgré la gravité du moment, je sentis une immense vague de bonheur soulever ma poitrine. Je supportais mal l'internat et toutes mes pensées me ramenaient vers l'hérété. Enfin, j'allais réaliser mon rêve, travailler la terre. Puis, il y eut ce matin triomphant de 1950, où, laissant les bœufs à l'étable, je partais avec mon Ferguson équipé d'une charrue vigneronne. La plupart de mes amis qui ont vécu cette époque sont morts. Alors que le moment de les rejoindre dans cet au-delà fait d'incertitude, mais peut-être d'une lueur d'espérance, s'approche, j'évoquerai mon auteur préféré, Chateaubriand, à qui je dois des moments si agréables. Sa vie tumultueuse, aventureuse, fut aux antipodes de la mienne, et pourtant, je lui emprunterai ces quelques phrases qui terminent les mémoires d'outre-tombe. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Les événements de demain ne me concernent plus. Ils appellent d'autres acteurs. À vous, messieurs!